Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Continuons notre promenade dans le Décalogue, cette fois-ci avec le septième commandement de Dieu, « Tu ne voleras pas », que l'on pourrait sous-titrer « Du vol à la tire à la législation fiscale ». A priori, ce commandement semble assez clair pour ne demander que peu de commentaires, même si on s'accorde à reconnaître qu'il n'est pas très scrupuleusement observé. Malgré tout, il n'est peut-être pas inutile de réfléchir quelques minutes sur son triple aspect, individuel, collectif et politique. Le vol individuel. Avant tout, le septième commandement suppose la légitimité de la propriété privée. S'il est vrai que la propriété est le vol, ce commandement n'a plus de raison d'être. Presque toutes les nations ont reconnu la propriété privée et celles qui ne le reconnaissaient pas, les Incas par exemple, l'a reportée à l'État. Le christianisme a toujours reconnu sa légitimité, même si, comme le dit saint Paul dans son Épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2, nous ne devons nous considérer que comme les intendants des biens qui nous sont confiés. Une société sans propriété privée est une société d'esclaves. Le seul exemple contraire est celui des monastères où règne le vœu de pauvreté, encore que chaque moine ou monial reste responsable des biens de la communauté qui lui sont confiés. Ce qui fonde le droit à la propriété privée est la responsabilité vis-à-vis de soi, de sa famille, de la société. La famille humaine a droit à une certaine intimité pour sa vie quotidienne, en particulier pour l'éducation des enfants. Dans son Évangile au chapitre 6, verset 6, saint Matthieu dit « Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie Dieu dans le secret. » Cela suppose que l'on ait une chambre munie d'une porte et d'une serrure. Certes, ce droit n'est pas absolu. Il est légitime que l'autorité publique, le prince, comme disaient les anciens, en réglemente le droit d'usage. Ce n'est pas parce qu'on a un puits qu'on a le droit de l'empoisonner, ni parce qu'un chemin passe sur ses terres qu'on a le droit de le couper. Main promoteur qui défigure les paysages devrait se le rappeler. Ce n'est pas parce que le hasard de la succession vous a rendu possesseur d'une chapelle à fresque que vous avez le droit de la raser pour en faire une porcherie. L'indignation contre celui qui voulait se faire incinérer en compagnie d'un Renoir et d'un Van Gogh, d'ailleurs légitimement acquis, est tout à fait justifiée. Sous ces réserves, le droit de propriété doit être défendu avec vigilance, et nos princes actuels devraient se rappeler que les grands empires du passé se sont effondrés dès qu'ils furent incapables d'assurer la justice et la sécurité des personnes et des biens. Malgré sa grandeur indéniable, l'empire carolingien a disparu pour cela. Il faut dire et répéter que, sauf cas extrême et rarissime, s'approprier le bien d'autrui, fût-ce pour un emprunt passager, est une faute authentique dont la généralisation aboutirait à la disparition de la vie en société. Il y a aussi l'abus de confiance. Les modalités en sont très diverses. Cela commence par les promesses non tenues. Je vous le rendrai dans 15 jours, et on ne le rend jamais, ou bien en piteux état. Et il y a celui qui disait « Je ne prête plus de livres, car tous ceux que j'ai prêtés, on ne me les rend jamais. » Et l'ajouter, je n'ai dans ma bibliothèque que les livres que j'ai empruntés. Bon, mais même si ce n'est pas un crime, c'est toujours une faute. Entre dans cette catégorie le locataire indélicat, certains touristes abusifs, comme par exemple ceux qui, au lieu de se contenter de quelques champignons pour leur consommation personnelle, ravagent les champs d'autrui pour en faire commerce, les vendeurs qui omettent sciemment un vice caché, à moins qu'ils ne trichent sur les poids et mesures, pratique contre laquelle fulminait déjà le prophète Michée. Peut-on être innocent avec des balances faussées et un sac plein de faux pois, disait le dit prophète. Un État digne de ce nom se doit d'être particulièrement sévère en ce domaine. L'injustice. C'est le vol de ceux qui profitent de leur force, de leur situation, de leur position pour s'emparer du bien d'autrui, par exemple en ne donnant pas ce qui lui est dû. On peut citer le patron qui profite d'une situation d'abondance de main-d'œuvre pour ne pas rémunérer justement ses employés, et aussi l'ouvrier qui profite d'un défaut de contrôle ou simplement de la confiance qu'on lui fait pour ne pas soigner son travail. Les grèves bouchons, au cours desquelles quelques employés profitent de leur situation pour manifester des prétentions exorbitantes, en sont un cas type. La possession d'une marchandise ou d'un objet rare ne justifie pas qu'on en demande n'importe quel prix, surtout si cette marchandise est indispensable à la vie. C'est le cas de tous les marchés noirs. Parler d'honoraires librement entre le malade et le médecin et se moquer du monde, cela suppose au moins une vertu élevée fréquente chez les grands patrons, mais rarissime chez les charlatans. Où est la liberté de la mère dont le fils est gravement malade devant celui qu'elle pense pouvoir le sauver? Entre dans ces cas, dans les prix demandés par des artisans malhonnêtes à des personnes ignorantes du métier. Le vol légal. Ce n'est pas parce qu'une pratique est légale qu'elle est moralement acceptable. Il peut y avoir vol en toute légalité chaque fois qu'on abuse de sa force, en particulier sur le plan intellectuel ou administratif. Cas de certains rédacteurs de contrats qui connaissent les ficelles de la loi sur le bout du doigt, de certains administrateurs qui se gardent bien de faire connaître leurs droits à ceux qui leur font confiance. Les anglo-saxons sont passés maîtres dans ce domaine, au point que certains ont présenté les États-Unis comme un pays où la bonne foi n'existe pas. C'est à juste titre que le législateur s'applique à défendre les usagers ignorants contre des clauses injustifiables glissées dans les contrats par les Shylock en tout genre. Ce genre de vol est particulièrement odieux quand il s'agit d'un élément vital. Cas de certains patrons des XVIIIe et XIXe siècles refusant de donner à leurs ouvriers un salaire décent sous prétexte de loi de l'offre et de la demande, contraignant femmes et enfants à travailler dans des conditions inhumaines pour un salaire de misère. Cas d'autres patrons qui s'octroient les découvertes de leurs employés comme main chef de service universitaire ou autres qui aggravent leur cas en empochant par surcroît les droits d'auteur. Certes, le métier de nègre, comme on dit, est fort ancien, mais ce n'est pas pour autant que cette pratique est recommandable. Mon expérience personnelle m'a montré que les noms figurant sur la couverture de mes ouvrages n'intègrent rarement ceux des vrais auteurs, ou, plus modestement, que si plusieurs noms figuraient, un seul avait réellement travaillé. Rendre à César ce qui est à César n'est pas toujours le premier souci des grands de ce monde, même s'ils ne sont pas César. Il faudrait aussi parler de certaines compagnies d'assurance expertes dans l'art des contrats lisibles par les seuls initiés tant ils sont alambiqués. Certains ne vont-ils pas jusqu'à donner des leçons de rédaction des contrats d'accident, de manière à faire porter la faute sur l'innocent? L'habitude des anglo-saxons de rédiger des contrats sans ponctuation relève du même esprit. Dans un domaine moins grave, on peut citer certaines publicités qui se veulent morales et sont beaucoup plus mensongères que les anciens slogans qui ne pouvaient tromper que les imbéciles. J'ai personnellement connu un restaurant qui affichait en menu promotion un repas plus cher et moins abondant que le menu gastronomique qui justifiait légalement la réputation officielle de l'établissement. Le vol institutionnel. Ce sont les vols perpétrés par l'État, liste longue et qui ne cesse de s'allonger. Les impôts. Il est clair que c'est une nécessité. La famille n'est pas une société parfaite, comme le disait saint Thomas. Il est clair que le fonctionnement de l'État suppose des frais qui doivent être couverts par des taxes, quel que soit le nom qu'on leur donne. On peut citer pour mémoire le pittoresque propos d'un député révolutionnaire « Seuls les esclaves paient des impôts, les peuples libres acquittent des contributions ». Il n'en reste pas moins vrai que le montant et la répartition des impôts doivent être calculés dans un esprit de justice, ce qui est loin d'être toujours le cas. Le comble de l'hypocrisie est peut-être de désigner des impôts injustes sous des noms anodins, tel que l'impôt sur la succession, qui signifie que l'État s'estime le propriétaire universel des biens de la nation, ne faisant que concéder, moyennant finance, usufruit des biens familiaux. Ou l'impôt sur la fortune, qui est un impôt sur ce qui ne rapporte rien, puisque les revenus sont taxés d'autre part. Les gouvernements actuels ne font que continuer en amplifiant une tendance très ancienne. Il y a eu l'impôt sur les portes et fenêtres, sur les chiens, les taxes sur le carburant ne font que reprendre la suite des taxes sur le sel. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que c'est la législation fiscale qui transforme tout citoyen en fraudeur éventuel et inclut une certaine proportion de fraude dans le calcul des taxes. Les cotisations sociales. S'il est normal que l'État veille à ce que les citoyens, surtout les plus démunis, soient protégés contre les accidents graves, Louis XIV l'avait fait pour les invalides et Louis XVI pour les marins, il est anormal qu'il en déduise le droit de jouer les assureurs. On pourrait très bien concevoir des assurances sociales, à l'instar des assurances automobiles, obligatoires mais non nationalisées. Là où le système devient proprement aberrant, c'est quand l'État s'arroge le droit d'utiliser selon sa fantaisie c'est-à-dire celle des services plus ou moins irresponsables qui prolifèrent, la masse considérable d'argent récolté, allant jusqu'à obliger tous les citoyens à financer des activités criminelles comme l'avortement. Nous sommes tous condamnés à être des assassins par procuration. L'enseignement. Il en est de l'enseignement comme de la santé. Il est normal que l'État veille à ce que chaque enfant soit enseigné normalement, en particulier les enfants dont les familles disposent de peu de ressources. Mais de là à avoir la prétention d'assurer soi-même cet enseignement, il y a un monde que seule la volonté de soumettre toute une population à l'idéologie des gouvernants peut expliquer, sinon excuser. En France, nous en cueillons les fruits amers, enseignement dévalué, corps enseignant dont les meilleurs éléments se voient dans l'impossibilité d'exercer leur métier, diplôme sans valeur, etc. Pendant ce temps, certains rêvent de supprimer nos grandes écoles sans se rendre compte que notre université ne vaut encore quelque chose que grâce à elle. Les retraites. C'est un sujet d'actualité s'il en fut. L'État a mis la main sur toutes les cotisations. On ne laisse le choix à personne. Et s'aperçoit maintenant qu'il ne pourra pas tenir ses engagements, encore moins respecter la justice. J'ai personnellement connu des sinistrés de la capitalisation, tous ceux qui s'étaient patiemment constitués un pécule au début du siècle. Au lendemain de la dernière guerre, il ne leur restait pratiquement plus rien. Que l'on compare la valeur du franc 1900 avec celle du franc 1950, on peut constater que la valeur du timbre, 5 centimes anciens en 1900, 5 francs en 1950, est l'équivalent de 250 francs ou de 300 francs maintenant. Laisser s'écrouler la monnaie est l'un des vols les plus odieux de l'État. Au plan international, nous touchons à un sommet du mystère d'iniquité dont certains a parlé. On a l'impression d'un brigandage à l'échelle de la planète. Ne prenons que deux exemples dont je fus le témoin. Certains pays parmi les plus pauvres dépendent étroitement de leur production agricole, puisque leurs ressources industrielles sont nulles. On commence par leur consentir des prêts à des taux intéressants à rembourser sur les récoltes à venir. Puis 2 ou 3 ans après, on décrète que le cours des 10 produits baisse de 20-30%, parfois davantage. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, avec des cours du cacao et du café fixés à New York, à Londres, je ne sais pas. L'irrigation est indispensable dans plusieurs pays, d'où l'idée d'aller chercher de l'eau n'importe où et à n'importe quel prix. C'est ainsi que certains consultants ont préconisé de capter l'eau dans des vallées hautes pour la diriger vers d'autres versants, secs une bonne partie du temps. Ce furent des travaux proprement pharaoniques. Il a fallu percer 5 000 à 5 000 mètres d'altitude une galerie de 4 ou 5 mètres de diamètre sur plus de 100 kilomètres. Ce n'est que lorsque toutes les entreprises étrangères ont été payées, ainsi que le consultant, que l'on s'aperçut que les terres irriguées étaient complètement stériles. Ceci s'est passé au Pérou. Le démantèlement systématique de notre agriculture relève du même état d'esprit. Ces lignes ont été écrites avant la même encyclique pontificale, Centesimus Annus. Plus que jamais, il apparaît qu'on ne peut faire l'économie ni de la vérité ni de la justice. Et dans la justice figurent le juste prix et le juste salaire, pour lesquels il est légitime que les facteurs économiques jouent, mais jamais sans être les seuls. Il y a, dit le pape Jean-Paul II, il y a dans le travail quotidien le poids de l'amour porte à sa famille. Ce qui signifie que cet amour est une composante du juste salaire. Prétendre que juste prix et juste salaire sont des illusions parce qu'on ne peut les calculer par une formule mathématique est grotesque. Ce n'est pas parce qu'on manque d'une définition clinique exacte de la mort ou du sommeil que l'amour ou le sommeil n'existent pas. Sur un mode plaisant, on peut poser la question à partir de combien de cheveux un homme est-il chauve? Le premier attribut de l'État est le glaive ou la main de justice. Mais la justice humaine seule est bien faible. On a pu dire qu'elle était complètement disqualifiée depuis Ponce Pilate, prototype des procès politiques en tout genre. Or, la manifestation matérielle de la justice réside dans la reconnaissance et le respect du bien d'autrui, ce qui ne peut se concevoir sans la reconnaissance et le respect de la personne d'autrui, qui n'est pas d'essence matérielle, encore moins économique, mais spirituelle. C'est en ce sens que l'on peut affirmer, après le pape, que marxisme et libéralisme, au sens de la réduction de la vocation humaine à la seule acquisition des biens matériels, sont les deux faces opposées de la même pièce de fausse monnaie et celle du matérialisme athée qui littéralement châtre l'homme spirituellement en niant sa dimension spirituelle. L'Église vous invite à rechercher le royaume de Dieu et sa justice, une justice fondée sur l'éminente dignité de l'homme et non une justice légaliste inventée par des hommes pour justifier leur égoïsme.